Pain d'espérance. Rencontre avec ceux qui se lèvent pour suivre l'appel du pape en cette année jubilaire.
Aujourd'hui, le témoignage d'Elsbieta Amsler, membre de l'Amitié judéo-chrétienne.
Depuis que le pape François a lancé l'année 2025, l'année jubilaire de l'espérance, je me sentis vraiment appelée à témoigner en quoi l'espérance pour moi est un témoignage du dialogue. C'est un témoignage du dialogue très spécifique dans l'Église catholique. C'est le dialogue avec la synagogue, avec le peuple juif, avec nos amis juifs. Et je pense que, en tant que membre de l'Amitié judéo-chrétienne de France, de section à Versailles, mais avant même dans le siège de l'association, comme je travaillais, dans l'Église catholique, ce témoignage que le dialogue est un chemin d'espérance, qu'on est en chemin, en pèlerinage vers le peuple juif et en même temps avec le peuple juif. Vers le peuple juif, c'est la phrase de la déclaration conciliaire Nostra Aetate, dont nous fêtons actuellement 60e anniversaire en 2025, depuis 1965. Quelle est la première phrase de cette paragraphe 4 de Nostra Aetate? Nostra Aetate, ça veut dire « à notre époque ». Donc, ça veut dire qu'on place notre relation avec le peuple juif dans l'Église catholique à notre époque, aujourd'hui. Et donc, cette déclaration, elle concerne donc les religions non chrétiennes. Donc, il y a des paragraphes qui parlent de l'hindouisme, de l'islam, du bouddhisme et du judaïsme. C'est le paragraphe 4. Et effectivement, la première chose qu'on a, il fallait vraiment purifier dans cette intention-là de cette déclaration, c'est que la religion juive, c'est-à-dire le judaïsme, n'est pas pour le christianisme une autre religion non chrétienne. Ça, c'était déjà une première étape de ce pèlerinage vers l'unité, vers les racines juives de notre foi chrétienne et de la parole de Dieu chrétienne et la lumière que Christ apporte. Parce qu'en fait, cette déclaration fait partie du décret Lumen Gentium, la lumière des nations. Donc, je fais une petite parenthèse parce qu'en fait, on est toujours dans le sujet. Où est-ce qu'on a, dans l'Évangile, on entend cette expression Lumen Gentium, la lumière des nations? Mais c'est quand les parents de Jésus, Marie et Joseph, selon la loi de Moïse, viennent au temple pour présenter au temple leur premier-né. Selon la loi de tout premier-né, nous sera consacré, me sera consacré à moi. Et qu'est-ce qu'il dit Siméon quand il voit petit Jésus? La lumière des nations et la gloire de son peuple Israël. Nous préférons souvent seulement s'arrêter à la lumière des nations et oublions la deuxième partie de cette prophétie, que ce petit Jésus que Siméon voit, il appelle pas seulement Lumen Gentium, la lumière des nations, selon les prophètes Isaïe, mais en même temps, autant à l'égalité, la gloire de son peuple d'Israël. Et si Jésus est non seulement lumière des nations, c'est-à-dire il porte Dieu, son Père, vers toutes les nations, mais il est la gloire de son peuple d'Israël. Et c'est là où commence le dialogue. Et à quoi consiste le dialogue comme espérance, démarche d'espérance? C'est d'une conversion du regard. Pour moi, mon voyage en Israël dans les années 90, un séjour en Israël, et quand j'ai vu le peuple juif prier au mur du temple, prier et pleurer que le temple était détruit, cette prière était pour moi une certaine... D'abord, je me disais comment ça se fait qu'il prie devant un tas de pierres, devant un mur. Et après, j'ai compris que la présence réelle, par cette prière, que la présence réelle est là. Et comme nous, on communie au pain et au vin, que Jésus dit « voici mon corps, voici mon sang », donc le pain et le vin, et comment trouver la présence de Jésus cachée sous ces deux choses matérielles. Il est aussi présent dans l'Eucharistie que aussi présent dans la prière juive, de certaines manières, comprenez-moi bien. Aussi, il y a de la présence très forte. Et donc pour revenir à cette découverte, que le changement du regard de l'Église vers la synagogue et vers le peuple juif est un début de ce pèlerinage d'espérance pour moi, parce que ça fait des années que je suis membre de l'Amitié judéo-chrétienne de France et même responsable du groupe de Versailles, que connaître Jésus juif, comme dit Sainte Ignace de Loyola, quand tu aimes quelqu'un, tu veux le connaître. Et donc le devoir premier de tout chrétien, c'est de connaître Jésus-Christ. Alors connaître, ça veut dire d'où il vient, qui il est, de quel peuple, de quel lieu. Puis on découvre, donc première étape de ce chemin, c'est que Jésus juif nous apporte un témoignage que justement explique le vieillard Siméon en disant qu'il est non seulement lumière des nations, mais il est aussi la lumière, surtout la gloire, la magnificence de son peuple, qu'il accomplit pleinement Jésus, chaque juif a reçu comme vocation, le peuple juif au pied de Mont Sinaï. Et alors, donc, pour revenir à Nostra Aetate, donc à notre époque, face au peuple juif et face à Israël, je parle bibliquement parlant, toutes les écritures que nous appelions toujours l'Ancien Testament, maintenant on dit Premier Testament, première étape, grande étape de l'Alliance, parce qu'en fait il s'agit de l'Alliance, c'est que cette déclaration, paragraphe 4 de la déclaration consacrée donc à la relation du christianisme avec la religion non chrétienne, face à la religion juive, il y a le mot scruter. Que scrutant son propre mystère, l'Église se souvient de son lien avec la lignée d'Abraham. Et cette phrase est très importante parce qu'elle ouvre la nouvelle étape du chemin entre christianisme et judaïsme. Et c'est un chemin d'espérance en grande totalité spirituelle dans laquelle nous sommes invités avec Jésus juif. Non pas pour s'enfermer dans le judaïsme ou changer de religion, de foi, mais au contraire, s'ouvrir totalement à ce que le Jésus juif nous montre et ce qu'il nous enseigne. Et alors, connaître les racines juives de la foi chrétienne, c'est ça. C'est ouvrir une nouvelle porte à l'Église. Et ce changement de regard est très important. Et c'est ça c'est ce qui s'est passé au moment quand cette déclaration a été promulguée. C'est que Jean 23, quand il a commencé le Concile Vatican II, il était habité par une inspiration de l'Esprit Saint, à savoir de se poser de nouveau la question dans l'Église, sur son identité, et que l'Église devait revenir sur elle-même, sur le moment où elle a été créée par le Christ, et dans le but pour lequel elle a été créée par le Christ, par son corps, par sa mort et par sa résurrection. Et que maintenant, Ecclesia est une force extraordinaire, une structure, un message, et d'une démarche nouvelle à travers le dialogue avec le judaïsme et avec le peuple juif. Donc ça fait 60 ans que ce nouveau chemin s'est ouvert. Et cette année, justement, qui est une année d'espérance, on est dans ce pèlerinage de rapprochement pour non seulement se mettre à la place de l'autre, mais surtout marcher avec et être à l'écoute de l'autre. Et je vois que moi, pour qui l'Église est très... C'est pour moi, c'est une famille. C'est une famille que Jésus a fondée sur la croix en disant à Jean, voici ta mère, et en disant à Marie, voici ton fils. Et nous sommes une famille dans le sang de Jésus, qui est liée par le sang de Jésus. Donc cette famille de frères et sœurs qui renoncent d'abord à avoir raison. Je sais qui tu es, pour dire à nos amis juifs, vous ne savez pas qui vous êtes. Nous allons vous dire qui vous êtes et qui vous n'êtes pas. Au contraire, on se met à l'écoute de l'autre. Et pour donner l'exemple de ce changement, de ce travail de dialogue, de ce travail d'être à l'écoute de l'autre et être éclairé par l'autre, c'est l'allégorie de deux femmes. C'est une allégorie de synagogue et l'église qu'on trouve dans beaucoup de cathédrales en France, où la synagogue a les yeux bandés et la tête baissée, et l'église, l'allégorie de l'église, de l'ecclésia, a la tête haute et regarde loin et puis elle est fière. Et les deux sont à côté. Alors, la synagogue, elle est comme si elle n'existe pas aux yeux de l'Église. Et depuis, ces deux allégories ont changé en 2015, donc au moment de 50 ans de Nostra Aetate, de la promulgation de cette déclaration, où on dit que l'Église maintenant scrute son propre mystère, c'est-à-dire cherchant la réponse pour qui elle est vraiment, doit retourner vers ses racines de notre foi chrétienne qui sont dans le judaïsme à cause de Jésus juif. Et on a enlevé le bandeau des yeux de la synagogue et les deux, donc on a créé une nouvelle allégorie, une nouvelle statue, comme celle, la première, mais nouvelle, où les deux femmes, qui symbolise synagogue et ecclésia, l'église, se regardent, sont assises l'une à côté de l'autre, elles se regardent droit dans les yeux, comme deux sœurs, et chacune tient les écritures dans la main. La synagogue tient le rouleau de la Torah, de Pentateuque, et l'église tient le livre des évangiles du Nouveau Testament, et elles les présentent l'une à l'autre pour ensemble voir qu'est-ce qui est commun. Et pour moi, justement, ma passion dans l'Église, c'est ça, c'est d'aider mes frères et sœurs par mon témoignage de cette découverte de Jérusalem, des Juifs qui prient au pied du mur, en croyant avec ferveur que Dieu est présent derrière le mur, et même avec eux qui prient, qu'en fait, nous croyons, et nous les Juifs et nous croyons en Dieu vivant, en Dieu présent au milieu de nous, et c'est lui qui est notre maître, notre sauveur, notre ami, c'est lui qui nous écoute. Et que si vous voulez, de cette écoute mutuelle, et on avance dans l'Église. Pour moi, c'est une marche, c'est un pèlerinage vers le paradis, en fait. Et parce que le fait de ne plus se détester et ne plus mépriser l'un l'autre et de plus avoir des bandeaux sur les yeux, j'ai dit aussi que peut-être l'Église aussi portait une certaine forme de bandeau pendant beaucoup de siècles par cet enseignement du mépris par rapport au peuple juif, au judaïsme, en prenant le slogan que c'est un peuple déicide, comment on peut tuer Dieu? C'était incroyable de penser ça. Et qu'on ne le peut plus le dire, c'est interdit. Le pape Benoît XVI s'est exprimé, que tous ces grands changements d'attitude, de regard, de position, de cette marche commune, sont pleins d'espérance, justement. Et d'espérance de la foi. Et ce n'est pas pour convertir l'un l'autre, mais en même temps, c'est un chemin de conversion. Pas seulement pour nous les chrétiens, comme nous sommes avec dialogue avec nos amis juifs. Eux aussi témoignent, et c'est très intéressant, qu'est-ce qu'ils témoignent? Ils témoignent qu'au contact avec les chrétiens, ils approfondissent leur propre foi et qu'en même temps, ils deviennent plus riches parce qu'ils sont libérés de la peur d'être jugés et de la peur d'être méprisés et qu'il faut qu'ils vivent certaines choses dans des ghettos pour se protéger. Que maintenant, il y a des rabbins qui n'ont plus peur d'entrer dans l'église parce qu'il y a crucifix. Et les chrétiens ne se demandent plus, est-ce qu'on peut visiter une synagogue? Mais oui, c'est possible. Et en même temps, tout en restant chacun authentiquement lui-même, ensemble, on peut faire ce chemin de pèlerinage dans le monde en donnant témoignage que c'est possible. Et c'est pour ça que je voudrais vraiment donner ce témoignage dans l'église, dans mon église, parce que je ne suis pas juive d'origine, je suis catholique depuis toujours, depuis ma naissance, et je pense que je rends grâce à Dieu qui m'a donné cette chance de découvrir mes frères juifs et la joie de partage avec eux et de se connaître en plus en profondeur et porter le témoignage pour les autres.
C'était Pèlerin d'Espérance, une coproduction des radios chrétiennes associées.